La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Alice Kaplan. Vous publiez un roman intitulé Maison Atlas qui paraît en France aux éditions Le Bruit du Monde et en Algérie aux éditions Barzac. Bonjour.
Bonjour, je suis très heureuse d'être là.
Alors Alice Kaplan, c'est un plaisir également de vous interviewer. Vous êtes une écrivaine universitaire et historienne américaine. Votre roman a été traduit en français par Patrick Hersant, mais vous êtes parfaitement francophone comme on va s'en apercevoir. Merci de nous répondre depuis les États-Unis où vous vivez et où vous enseignez. C'est un roman qui m'a beaucoup plu. Il foisonne de personnages, il a pour cadre l'Algérie, où vous nous racontez l'histoire tragique de la dernière famille juive d'Alger. Première question, Alice Kaplan, comment est né ce livre, puisque ce roman est inspiré de faits réels?
Oui, voilà. Je pense que c'est grâce à Camus. Enfin, c'est grâce à Camus. Je suis allée en Algérie pour travailler sur Camus. Je voulais suivre un peu ses pas au moment où il écrivait « L'étranger ». Et c'est Selma Hellal, mon éditeur à Alger, qui m'a dit, en lisant mon Camus, ça se voit que vous rêvez de passer au roman, alors allez-y, essayez un roman. Et on avait beaucoup parlé parce que j'ai été fascinée par les différentes traces de la vie juive en Algérie, de cette trace de disparus, de ces synagogues devenues mosquées, de ces étoiles de David que j'ai perçues ici et là. Et elle m'a mis en contact avec une famille, une grande famille algéroise qui assume son identité juive et qui est restée après l'indépendance. Et grâce à cette famille, j'ai pu enquêter sur une très très belle histoire à plusieurs générations.
Alors c'est véritablement un beau roman. Vous nous racontez d'abord la rencontre à Bordeaux entre Daniel, qui est originaire d'Algérie, et Émilie, qui elle est américaine. Une rencontre qui se déroule dans les années 90, un peu avant le début de la décennie noire en Algérie. J'aimerais savoir comment a eu lieu cette rencontre qui paraît improbable.
Oui, c'est un peu comme une expérience scientifique. Qu'est-ce qui va se passer si on crée une histoire d'amour entre une juive laïque, un peu naïve, hein, du Midwest des États-Unis, qui fait ses études à l'étranger, qui décide d'aller faire des études de droit, un peu juste pour être là, en effet. Et puis, cet Algérois, Daniel, qui est originaire d'une famille où les hommes vont faire leur droit en France et puis ils rentrent en Algérie, et qui porte le poids de cette histoire familiale et qui est conscient d'être en quelque sorte le dernier. Alors celui avec cette histoire très épaisse, si vous voulez, et cette fille du Minnesota, je les ai mis ensemble à partir de l'amphithéâtre où ils sont assis l'un à côté de l'autre.
Et ils ne vont pas tarder à être séparés en raison des nouveaux soubresauts de l'histoire en Algérie.
C'est ça. En fait, ils sont dans un café un jour et puis ils ouvrent le journal et voilà un entretien avec les parents de Daniel où il aperçoit qu'il y a un grand débat entre sa mère et son père. Est-ce que oui ou non il faut partir ? Et le journaliste qui fait cet entretien dit en passant, bon, la plupart des Juifs, enfin la plupart des Français sont partis en 62, ce couple est resté, ils sont maintenant devant la même décision que les autres ont pris il y a longtemps. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Et dans ce roman, il y a effectivement des allers et retours, Alice Kaplan, entre trois périodes historiques importantes, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'indépendance et ce qu'on a appelé la décennie noire. Daniel est français et algérien algérien depuis 1000 ans, écrivez-vous. Ce roman est aussi constitué de plusieurs chapitres où vous nous racontez l'histoire récente de l'Algérie. J'ai beaucoup aimé cette incursion de l'histoire au sein de la fiction.
Ça, c'était une nouveauté pour moi parce que j'ai terminé ce livre, cette histoire d'amour entre Daniel et Émilie, et puis la fille de, puis leur fille, Becca. Et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui manquait parce que le lecteur n'allait pas comprendre pourquoi la famille Atlas est restée. Pourquoi ce lien de la famille Atlas à l'Algérie, cet amour pour l'Algérie. Et donc, j'ai décidé, à partir d'archives que j'avais, de raconter en interstice, en italique, l'histoire H majuscule, si vous voulez. Et à partir d'une belle histoire dans la famille qui m'a servi de modèle, qui est l'histoire d'un grand-père notable dans la Casbah et qui représentait en quelque sorte au Conseil général les Juifs et les musulmans.
Alors pourquoi la famille Atlas de votre roman a-t-elle soutenu l'indépendance de l'Algérie et a donc décidé de rester après 1962?
Ben, je pense qu'on oublie un peu cet engagement des libéraux en 62, enfin à partir de 54, des gens comme par exemple Jacques Chevalier, maire d'Alger, il y en a eu d'autres aussi qui étaient très sympathiques à la cause révolutionnaire. Dans la famille Atlas, le grand-père était très lié à des gens comme Ferhat Abbas, par exemple. Et on trouve même, en travaillant sur la famille qui m'a servi de modèle, j'ai trouvé des documents passionnants dans les archives, des renseignements généraux, des documents où les renseignements généraux étaient très paranoïaques sur une coalition entre juifs et musulmans. On oublie qu'il y avait cette coalition-là.
Alors, vous rappelez que le décret Crémieux a octroyé la nationalité française aux Algériens de confession juive. Et puisque vous parlez de Ferhat Abbas, le grand nationaliste algérien avait été très choqué de l'annulation de ce décret par le régime de Vichy.
C'était très cynique, en effet, cette abrogation de décret Crémieux. Et pour mon personnage, Henri Atlas, dans le roman, il a une prise de conscience de son être indigène. Et il va faire un discours au moment où on retire ses droits de citoyenneté en disant à ses collègues qu'il est fier d'être indigène. Et après la guerre, il va dire « Personne parmi vous ne m'a aidé. J'étais tout seul ici. » Et il n'y avait que mes frères musulmans qui m'ont soutenu pendant cette période si dure.
Alice Kaplan, j'ai été très sensible dans votre roman à la cartographie d'Alger. Vous décrivez la Casbah, ses ruelles, ses fontaines, mais aussi les avenues d'Alger, les boulevards, la mer, les restaurants où l'on déguste du rouget. Vous précisez même parfois ce qu'on mange. Il y a une précision qui nous donne le sentiment d'être véritablement transporté en Algérie.
Je voulais qu'on sente l'odeur des sardines, n'est-ce pas, dans les rues près de la mer. Mais j'ai passé beaucoup de temps, vous savez, en Algérie. À partir de 2012, je suis allée presque tous les ans et j'ai pu me promener longuement. Enfin, je connais ces rues, je les adore, je connais les courts-circuits entre deux rues. La façon dont on traverse cette ville et qu'on voit de temps en temps la mer qui se présente. Et je tenais beaucoup à faire le contraste entre cette ville vallonnée et la ville où moi je suis née, Minneapolis, dans le Minnesota, où la terre est plate et il y a des lacs partout, mais on peut toujours voir de l'autre côté, tellement tout est plat.
Et puis, il y a cette superposition des noms de rues. Les noms qui existaient avant l'indépendance et ceux qui datent d'après 1962. On a l'impression que pour les habitants d'Alger, aujourd'hui, le passé peut ressurgir à la faveur d'un nom de rue qui est encore en usage, alors que cette rue a été officiellement débaptisée.
Oui, c'est très inégal, en effet. Il y a des noms d'usage qui n'ont jamais disparu. Et puis d'autres qui sont, enfin, on dit, par exemple, on dit toujours Bellecour, parfois, au lieu de Belouizdad. Et donc, dans le roman, j'ai décidé de dire en même temps Bellecour et Belouizdad pour représenter justement cette instabilité de nom de rue. J'étais très, très fascinée par, en juxtaposant moi-même des cartes, parce que il y a de très, très belles cartes des années 50 de quelqu'un qui s'appelle Vrillon. Et j'ai trouvé ces cartes d'Alger coloniale dans la bibliothèque des Glycines à Alger. Et donc, je me suis promenée avec les deux cartes et comme ça, j'ai pu vivre les aventures de mes personnages.
Et de la même manière, Alice Kaplan, il y a une grande précision en ce qui concerne les noms de famille. À la fois les grandes familles musulmanes et les grandes familles juives, on peut les citer de mémoire, la famille Tamzali pour la famille de Wassila Tamzali que l'on connaît.
Oui, c'est ça.
Il y a aussi les familles Attali, Benichou, qui sont des noms connus en France. Le nom des héros, en revanche, Atlas, j'imagine que vous l'avez inventé.
Mais oui, tout à fait. Je tenais avec la famille qui m'a aidé à s'ils allaient ouvrir la porte de leur histoire, j'allais quand même respecter leur droit à la vie privée et en changeant les noms et les adresses aussi où ils vivaient. Atlas, j'ai adoré, enfin c'est un nom évidemment fictif, mais c'est un nom que j'ai trouvé sur une liste de noms juifs maghrébins. Et j'ai beaucoup aimé évidemment le côté mythologique parce que en effet cette famille maintenant en Algérie porte tout le poids de l'héritage juif. Et alors, aussi il y a le nom de lieu Atlas, la montagne.
Ce qui est émouvant dans votre livre, Alice Kaplan, ce sont les signes d'amitié qui viennent de la population musulmane en direction de cette famille juive. Il y a le gardien qui surveille la synagogue, qui a pratiquement l'âge de ces personnes âgées juives. Et puis, il y a ces centaines d'Algériens de confession musulmane qui viennent assister aux obsèques de Samuel, qui a été assassiné pendant la décennie noire.
Non seulement de Samuel, mais après de Roger Hanin. C'est quelque chose qui est arrivé il y a seulement quelques années. Roger Hanin, l'acteur, a voulu être enterré au cimetière de Bologuine et il y avait la foule qui est venue rendre hommage.
Alors les obsèques de Samuel en pleine guerre civile sont très particulières, Alice Kaplan, puisqu'il y a des chiens renifleurs au-dessus des tombes. La rumeur disait que certains terroristes se cachaient dans les cimetières.
Oui, oui. J'ai beaucoup travaillé pour restituer cette ambiance étrange des années 90. J'ai travaillé au Centre culturel algérien à Paris. Très belle bibliothèque et une collection de coupures de presse où j'ai pu, vraiment j'ai puisé dans les détails de ces coupures de presse.
Il y a quelque chose de tragique et d'émouvant à parler de la dernière famille juive d'Alger. C'est une part de l'Algérie qui disparaît avec le départ de ces Algériens.
Je pense qu'il y a un moment dans mon livre, c'est un peu allégorique, où je parle de l'arbre l'orme dans le Minnesota qui a été atteint d'une maladie qui a détruit tous les arbres sauf un seul qui a survécu. Et je dis dans cette partie que les scientifiques ont dit que s'il y a un seul survivant, peut-être que les autres peuvent revenir après. Et c'est en quelque sorte mon espoir, c'est un espoir... Un peu poétique, je dois dire.
Alice Kaplan, c'est un livre aussi où l'on se pose la question de l'action lors d'une guerre. Poser des bombes pour une cause noble, est-ce que c'est justifié? Vous faites notamment référence au célèbre film « La bataille d'Alger » qui évoque les attentats durant la guerre d'indépendance algérienne.
Oui, c'est une expérience que j'ai eue qui est fascinante pour moi d'enseigner ce film. J'enseigne ce film depuis, je sais pas, depuis 20 ans au moins. Et les réactions de mes étudiants a pas mal changé Au début, tout le monde était du côté du FLN, des révolutionnaires. Et après le 11 septembre, j'ai eu parfois des étudiants qui prenaient parti pour le colonel Mathieu, celui qui était venu pour arrêter le terrorisme. Et j'ai mis dans le roman une sorte de débat entre différents étudiants où quelqu'un dit, vous savez, le colonel Mathieu, c'est lui qui... On devrait s'identifier à lui. Et puis, il y a un groupe d'étudiants qui dit, oh, c'est pas possible, personne va être du côté du colonel Mathieu. Et donc, le débat, les différentes prises de position, les multiples points de vue vis-à-vis des événements historiques m'intéressaient beaucoup. Et j'ai pris plaisir à jouer là-dessus.
Alice Kaplan, je l'ai dit, vous êtes historienne, universitaire, vous enseignez à l'université de Yale aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre aussi régulièrement en Algérie et à connaître aussi parfaitement ce pays, puisque votre roman, je l'ai dit, fourmille de détails géographiques et historiques qui montrent votre intimité avec ce pays? C'est à Albert Camus que vous devez la connaissance de l'Algérie?
Oui, c'est grâce à lui. Et puis, après un certain moment, je me rendais compte que mon amour s'est passé en quelque sorte de Camus à son pays. Et chaque fois, enfin, je sens un grand privilège à pouvoir y aller parce que peu d'Américains connaissent ce pays qui est magnifique.
Et votre roman est l'un des rares romans américains à évoquer l'Algérie.
Oui, je pense que c'est vrai. Que j'ai écrit le premier roman sur une Américaine à Alger.
En tout cas, j'invite nos auditeurs, les auditeurs de la bibliothèque de Radio Orient, à découvrir votre magnifique roman intitulé Maison Atlas. Il paraît en France aux éditions Le Bruit du Monde et en Algérie aux éditions Barzac. Merci Alice Kaplan d'avoir été l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient.
Merci beaucoup.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.